L'Express du Grand Paris, pour aller plus vite, pour aller plus loin. Une émission présentée par Christophe Bordet.
L'Express du Grand Paris sur Radio Territoria, vous connaissez cette émission si vous écoutez Radio Territoria régulièrement et vous la découvrez peut-être sur Radio Immo puisque je le rappelle, nous sommes sur ces deux radios aujourd'hui et demain en direct du Salon des maires d'Île-de-France, le salon de la MIF ici à Villepinte. Vous avez pu découvrir tout un tas de personnalités hein, depuis ce matin, puisque les émissions ont commencé à 9h et on poursuit donc jusqu'à la fin de cet après-midi et demain en direct de Villepinte. L'Express du Grand Paris, on ne pouvait pas faire autrement que d'inviter Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris. Bonjour Patrick Ollier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et nous faire l'honneur de venir nous voir, bien évidemment. On va parler du plan de relance de la métropole, tout d'abord. On va évoquer ce plan dans le détail, bien entendu, mais la métropole du Grand Paris, obligée de mettre en œuvre un plan de relance, est-ce que ça veut dire que le plan de relance de l'État 100 milliards, hein, n'est pas forcément à la hauteur des enjeux et des besoins.
D'abord, merci de m'avoir invité.
Avec plaisir.
Merci à Radio Territoria et Radio Immo. Chaque fois, vous êtes à la pointe de l'information sur ces problèmes économiques. Je vous en remercie. Est-ce que l'État est à la hauteur ? Est-ce que nous sommes à la hauteur ? Je pense que c'est ensemble, État et collectivités territoriales, que nous pourrons être à la hauteur du défi. Après cette pandémie qui n'est pas encore achevée, d'ailleurs, cette épidémie terrible, pendant plus d'un an et demi, on a été complètement paralysé dans nos initiatives, dans les activités économiques. Et donc, on se retrouve dans une situation dramatique. Par exemple, l'aire métropolitaine a perdu 37% de sa substance économique en l'espace de cette période-là. C'est 34% en moyenne pour le reste du territoire. Donc, il faut relever le défi. Et pour faire de la relance, il faut apporter des moyens financiers pour provoquer des investissements sur des projets précis. D'abord, il faut identifier les projets, mais il faut du financement. Donc l'État apporte dans son plan de relance les financements nécessaires. Mais s'il n'y avait pas, en plus, en complément, les financements des collectivités, ce n'est pas du tout uniquement avec les crédits de l'État qu'on pourrait atteindre l'objectif. Donc tout le monde s'y met. Regardez la région, qui a créé un fonds de résilience régionale auquel la métropole a participé. C'est en gros 140 millions d'euros qui ont été investis et donc 14 millions d'euros de la métropole qui contribue à juste proportion de son budget. Et nous avons pu aider des milliers d'entreprises, des petites entreprises, commerçants, etc., à sortir de l'eau, la tête de l'eau pendant cette période. Bien, c'est complémentaire de l'action de l'État. La métropole elle-même a mis 110 millions d'euros dans son plan de relance métropolitain qui, dans 5 thématiques différentes et dans 50 actions que nous avons prédéterminées...
On va les aborder. Hein,
va aider les communes, dès lors qu'elles ont des projets dans ce domaine-là. Et nous avons signé avec l'État, justement, puisqu'on parle de l'État, et le préfet de région a représenté le gouvernement, le 18 mars dernier, un contrat de relance du territoire écologique. Ce contrat de CRTE est extrêmement important parce qu'il permet de coordonner la relance de l'État avec la relance de la métropole. C'est-à-dire qu'il organise la convergence des crédits sur des projets identifiés. Ça veut dire qu'on est plus fort à deux que seul, de son côté.
Est-ce que malgré tout, Patrick Ollier, vous avez toujours des inquiétudes ? Ce matin, la maire de Villepinte était avec nous en direct et elle nous racontait qu'elle avait un certain nombre de commerces qui avaient fermé, qui n'avaient pas rouvert, en tout cas, il y a un mois, lorsque tout est reparti, parce que ils n'ont pas tenu, et qu'elle était assez inquiète quand même sur les mois qui viennent avec des commerces qui n'arriveront pas à tenir non plus. Est-ce que ça, au niveau de la métropole, j'imagine que vous avez identifié ce problème, évidemment, est-ce que vous avez encore une inquiétude malgré tout ?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr que nous avons une inquiétude, nous sommes très vigilants. C'est pour ça que nous avons lancé l'opération Centre-Ville Vivant. Cette opération Centre-Ville Vivant, nous allons lancer une deuxième édition là, en ce moment. Nous sommes en train de collecter les demandes des villes pour justement leur apporter un soutien pour notamment la préemption des baux commerciaux. Si elles n'ont pas les moyens de les préempter, si d'aventure ils sont en vente, ou éventuellement les racheter, si elles ne peuvent pas les racheter, pour essayer de trouver des commerces capables de les reprendre pour pouvoir faire fonctionner le commerce de proximité. On a lancé ce système-là avec de l'aménagement, bien sûr, au niveau de la qualité de vie, y compris la création de parking. Donc on a un projet centre-ville vivant qui peut correspondre à la volonté de la maire de Villepinte. Et c'est une amie, il n'y a pas de souci, je vais en discuter avec elle, je l'ai vue ce matin. Et si on peut s'engager là-dedans avec elle, on le fera. Mais j'ai l'inquiétude, comme tout le monde, de ces commerces qui ont vécu en respiration artificielle grâce aux aides qui leur ont été apportées et qui aujourd'hui, maintenant, avec la vérité de la gestion du quotidien, puisque les choses ont repris, risquent de trébucher et de faire faillite. Nous sommes vigilants, on ne maîtrise pas ce secteur, donc on va faire en sorte, au coup par coup, d'aider les communes qui auront besoin de l'aide.
Patrick Ollier, vous le disiez tout à l'heure, vous travaillez beaucoup et vous allez à fond sur l'écologie et l'environnement à travers aussi ce plan métropolitain. Concrètement, ça se traduit comment ? C'est quelque chose qui avait démarré d'ailleurs, on peut le dire, avant même qu'il y ait le Covid ou la Covid et les confinements, avant la crise en tout cas.
C'est exact, mais la crise nous a empêchés de le mettre en œuvre.
De le mettre en œuvre, oui.
Forcément, puisqu'on a pris un an de retard avec tout ça. Et c'est le bon moment de le mettre en œuvre, puisque la convergence des actions de l'État et de la métropole, puisqu'il s'agit de la métropole, mais également avec la région, nous avons signé une convention de partenariat avec Valérie Pécresse et la région sur les mêmes thématiques pour coordonner nos actions, pour aller dans le même sens et mieux aider ensemble les communes qui en ont besoin. Alors ça va au niveau de la santé, de la sécurité alimentaire, en passant par l'économie et la culture de proximité. Je vous cite les cinq thématiques. La transition écologique et le développement des mobilités douces, l'aménagement du territoire et le logement, la transition numérique et la lutte contre la fracture numérique. Donc dans ces cinq thématiques, qui sont celles de notre plan de relance, nous mettons en œuvre 50 actions, ça fait 10 par thématique, que nous sommes en train de travailler en ce moment pour faire appel aux communes, si elles le veulent bien sûr, pour qu'ils puissent avoir un projet dans le cadre de ces actions. Et à ce moment-là, on apportera les financements nécessaires pour ces actions. C'est en train de se faire.
Patrick Ollier, un autre sujet qui est important, et d'ailleurs avoir un toit, c'est la première chose qui apparaît dans notre Constitution quand même, hein, donc ce n'est pas rien. Soutenir le secteur de l'habitat et de la construction. Là aussi, vous êtes fer de lance avec la métropole. Qu'est-ce que vous mettez en place dans le cadre de ce plan de relance plus particulièrement ?
Alors là, vous touchez un problème délicat aujourd'hui.
Ah, pour l'Île-de-France, c'est délicat. Enfin, pour notre région et notre métropole, c'est vrai que c'est délicat parce que c'est tendu, quoi.
Alors, pour la région Île-de-France, c'est délicat. Mais pour, au sein de la région Île-de-France, la métropole qui représente la zone dense, 7 millions d'habitants, la zone dense, c'est encore plus délicat. Parce que construire dans cette zone qui est déjà très dense, c'est extrêmement difficile. D'abord, de trouver des terrains
libres. Il faut du foncier. Et là, au point de vue du foncier.
Et partout, il y a des terrains libres. Les prix montent à une allure extraordinaire et ce n'est pas les mairies qui peuvent contrôler les prix. Et sinon, il faut faire de la démolition, reconstruction. Et tout ceci crée des problèmes avec les riverains. Et il y a un problème d'acceptabilité des populations qui, en l'espace de quelques mois, une année maximum, ont considérablement évolué vers systématiquement le rejet de tout projet. C'est préoccupant pour nous. Parce que quel que soit le projet, immédiatement, il y a des pétitions, il y a des recours. Or, pour accepter, pour pouvoir loger les personnes qui ont besoin de logement dans la région parisienne, il y a une loi qui prévoit 70 000 logements par an. Elle n'est pas tout à fait respectée. Et sur ces 70 000 logements par an, ça fait 39 000 logements dans l'aire métropolitaine, la zone dense, j'y reviens.
Donc c'est énorme.
Et c'est énorme. Et donc nous essayons de respecter, avec le préfet de région, avec le ministère du logement, on a des contrôles permanents et chaque ville doit répondre à un volume de construction qui doit permettre de faciliter la mise en œuvre de ces 39 000 logements par an. C'est très compliqué. On y arrive difficilement. Et je vous répète encore que notre principal problème, ce n'est pas tellement le financement, c'est l'acceptabilité et c'est les recours. Et il y a une multitude de recours qui sont systématiquement engagés dès qu'on fait quelque chose, qui font perdre beaucoup de temps à tous nos projets. Ceci complique cela. Voilà, donc nous avons une volonté totale d'aller dans le sens de la proposition de logement, mais le problème de la densité est un problème qui va devenir, là, dans les mois qui viennent, une difficulté majeure pour les maires constructeurs. Car cette acceptabilité par rapport à l'augmentation de la densité devient extrêmement compliquée. Et je comprends que des personnes qui vivent dans des pavillons et qui sont confortablement installées depuis des années refusent de voir de l'autre côté de la rue un immeuble de 4 ou 5 étages se construire.
Bien sûr.
Je le comprends. Même s'ils ont construit leur pavillon à côté d'un pavillon qui existait déjà. Mmh. Mais ça, c'est oublié.
Mais ça, on l'oublie.
Et c'est un oubli. Voilà. Et etc., etc. Donc, ouais. C'est une difficulté, mais il ne faut pas qu'elle nous fasse perdre de vue l'objectif, parce que nous avons encore de la surface dans la région Île-de-France et dans la métropole, il en reste encore un peu. Et il faut en profiter parce qu'on ne peut pas refuser de loger les personnes qui en ont besoin. Je ne parle pas des logements sociaux, là. Je parle d'une manière générale.
D'une manière générale,
d'une manière générale, l'accession à la propriété, bien sûr. Alors, a fortiori, les logements sociaux. Parce que moi, dans ma ville de Rueil-Malmaison, j'ai à peu près 15 000 demandes dans une ville de 80 000 habitants de logements sociaux dans le cadre du numéro unique régional. Et sur ces 15 000 demandes, j'ai 5 000 demandes identifiées de Rueillois, de Rueil, qui ont besoin de logements sociaux. Et dans cette ville de Rueil, il y a à peu près 300 logements sociaux qui se libèrent par an. Mmh. Vous voyez le problème.
5 000, 3 000, voilà. 15 000, 3 000, mais c'est vrai que ça villes, paraît toutes les villes impossible sont... finalement. C'est
toutes
insoluble.
Les villes sont confrontées
c'est
à ce
insoluble.
Problème.
Et puis, il faut le rappeler, 70% quand même des Français sont éligibles au logement social.
Oui, oui.
Donc ça, forcément, ça crée une difficulté aussi.
Et les franciliens et les métropolitains n'ont pas conscience de ces difficultés.
Oui. Moi, je voulais vous poser une question, parce que vous parlez de l'acceptabilité, effectivement, c'est très compliqué. Au-delà de ça, est-ce que finalement, quand on regarde les choses simplement et froidement, quand l'État décide de supprimer la taxe d'habitation, c'est de l'argent en moins qui rentre dans les caisses des communes. Ce n'est pas à vous, monsieur le maire de Rueil-Malmaison, à qui je vais l'apprendre. Et donc derrière, il faut arriver à gérer ça. C'est-à-dire que les communes, d'un côté, ont envie qu'il y ait des constructions, mais de l'autre, il faut aussi, à ce moment-là, peut-être créer une école, qu'il y ait des services publics, etc. Il faut de l'argent. Il n'y a pas d'argent.
Je ne dirais pas mieux que vous, car vous l'avez très bien dit. L'État, aujourd'hui, a une politique qui n'est pas une politique d'incitation. Parce qu'il prive, en retirant la taxe d'habitation, il prive en grande partie la liberté des maires et des conseillers municipaux de fixer l'impôt. Et il les prive, ça va même à l'encontre de la Constitution, qui laisse libre arbitre aux villes de décider des fiscalités locales. En privant les villes de cela, il les prive de recettes, pas totalement, parce qu'il compense la taxe d'habitation, mais à l'année N-2 ou 3 maintenant, depuis ça fait 2 ans que c'est lancé, et c'est figé, il n'y a pas d'évolution. Alors que la population augmente, vous avez raison, donc forcément des écoles supplémentaires, forcément, etc., etc., des constructions supplémentaires, et moins de moyens financiers, parce qu'en même temps, l'État augmente la péréquation pour les villes, dites entre guillemets riches, mais une fois que les riches meurent, je me demande qu'est-ce qu'il advient des pauvres, car c'est bien ça le problème. Mmh. Et en plus, ils nous suppriment les dotations qu'ils nous donnaient, notamment la dotation globale de fonctionnement.
Ouais.
D'un côté, on paye plus, d'autre côté, on reçoit moins. Et il faut qu'on bâtisse comment ? En faisant de la dette. Et la Chambre des comptes, la Cour des comptes, nous impose de limiter.
Vous tombez dessus après.
Voilà, oui. C'est un cercle infernal. Voilà, je préfère ne pas rentrer dans les détails, mais pour un maire, c'est très compliqué. Et donc, la métropole, c'est 131 villes. Donc, c'est 131 fois plus compliqué pour la métropole. Je plaisante en disant ça, mais à moitié, car ces difficultés, on les ressent et on sent les réactions en ce moment. Là, je vois les maires. Régulièrement, j'avais un bureau de la métropole avant-hier et on a un conseil la semaine prochaine et j'ai les réactions déjà là des maires que je revois en présentiel et qui sont tous en alerte rouge par rapport à l'augmentation de la densité, tous, quelle que soit leur couleur politique. Alors on sait qu'il faut construire et c'est difficile de dire comment.
La fracture numérique, parce que ça aussi, c'est quand même important. Quand on vient comme moi de la campagne et que l'on n'est pas d'internet, ben, ça arrive. Mais il n'y a pas besoin d'être en pleine campagne dans le sud-ouest de la France pour avoir ce problème. Dans la métropole, c'est aussi une réalité dans certains endroits.
Oui, c'est une réalité, et dans toutes les villes, y compris dans la mienne au passage, dans certaines parties de la ville. Donc c'est une réalité qui commence à être réglée, car le gouvernement a passé la surmultipliée à ce niveau-là, et je l'en remercie, mais qui impliquera encore quelques années de travail pour la résorber complètement. Mais cette fracture numérique peut être, entre guillemets, facilement résorbée par des investissements lourds qui sont en train d'être faits, par une volonté des villes, qui les maires ont bien compris que c'était important de lancer des programmes avec l'aide des départements et l'aide de l'État et de la région. Donc ça peut être résorbé. C'est beaucoup plus facile à régler, pardon de dire ça, que le problème du logement.
Évidemment.
Voilà. Parce que là, c'est une question pour la fracture numérique.
Mais ça fait partie aussi de votre plan de relance.
Bien sûr. Mais nous, dans le plan de relance, nous avons un chapitre destiné à cela. Nous avons un fonds d'investissement numérique, le FMIN, et nous avons un schéma numérique métropolitain dont s'occupe Geoffroy Boulard, le maire du 17e, qui est le vice-président de la métropole chargé de ces problèmes. Donc nous sommes investis en plein là-dedans, mais nous nous aidons mutuellement et nous profitons des aides de l'État pour développer cette activité. On a rencontré Cédric O, le secrétaire d'État, qui va mettre à disposition de la métropole une centaine de conseillers numériques pour nous aider à faciliter l'accès au numérique, etc., etc. Donc là, il y a une volonté générale, il faudra un peu de temps, mais je répète, c'est plus facile à régler que l'affaire du logement.
Allez, un petit mot, une petite question qui fâche. Allez, une petite. Ce matin, la maire de Villepinte, qui était avec nous, qui est une amie, nous a dit, voilà, en gros, la métropole, mais pourquoi faire la métropole? On entend des maires qui disent la métropole, enfin, qui critiquent la métropole. Vous avez envie, on est avec eux, là. Vous avez envie de leur dire quoi à tous ces maires qui doutent de l'importance de la métropole du Grand Paris?
Je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi nombreux que ça. Parce qu'au début, ils se demandaient qu'est-ce que c'est que cette strate supplémentaire. Je le comprends très bien. Moi, j'ai voté contre la loi qu'il a mise en œuvre. Parce que cette loi est largement insuffisante. Il faudrait au contraire renforcer la métropole, lui donner plus de moyens, plus de pouvoir. Mais la loi est insuffisante. J'ai souhaité être président parce que je voulais sauver le concept de métropole du Grand Paris, car si on l'avait supprimé, on n'aurait jamais pu la remettre en place. Et depuis 4 ans, 5 ans maintenant, budgétaire que nous existons, nous avons réussi à la rendre crédible et lisible auprès des maires. Les maires savent les aides que nous leur apportons. C'est plusieurs centaines de millions d'euros de subventions sur des programmes. On parlait de la transition écologique. Je pourrais parler de la transition numérique. Je pourrais parler
bien sûr.
Développement, d'inventons la métropole. Dans l'inventons la métropole, les deux concours qu'on a lancés, les deux premiers, c'est quand même 70 villes. C'est la moitié de l'aire métropolitaine qui ont donc 70 projets extraordinaires d'urbanisme qui commencent à sortir de terre et qui vont la rendre lisible et crédible. Alors, les maires savent très bien, sur, par exemple, le structurel. Nous avons une ligne budgétaire. On aide en ce moment 6 passerelles et ponts à être construits, tous dans l'est et le nord de Paris, au passage. C'est des programmes considérables. Je parle du centre aquatique, on en a parlé tout à l'heure. C'est tout aussi important, etc., etc. Donc, aujourd'hui, le problème de l'existence de la métropole n'est pas un problème qui se pose. Le problème qui se pose, c'est la multiplicité des strates. Et ça, c'est important à régler. Donc, dans l'aire métropolitaine, il y a aussi des territoires qui existent. Il y a les départements, il y a la métropole, il y a la région. Je pense que toutes les capitales d'Europe et du monde ont une aire métropolitaine qui est fondée sur la zone dense. Et en France, ce sont des communes qui gèrent le territoire, que ce soit la zone dense ou pas. Donc, la métropole est une intercommunalité, c'est la métropole des maires, qui gère dans l'intérêt des populations cette densité qu'on est plus facilement capable de gérer à 130 maires plutôt que chacun de son côté séparément, parce qu'on fait converger les aides dans des programmes globaux. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Regardez les inondations, la lutte contre les inondations. On a lancé un grand programme dans le cadre de la GEMAPI, 100 km de digues qu'on est en train de commencer à construire, mais personne ne s'y intéresse, tout le monde s'en fiche. Et on ne retient que les réactions de certains intellectuels ou élus qui, depuis le départ, sont contre cette métropole du Grand Paris, qui restent contre et qui seront toujours contre. Voilà, moi, je suis pour, puisqu'avec toutes mes équipes, on l'a construite. Mmh. Et cette métropole, aujourd'hui, elle est incontournable parce qu'elle est utile et qu'elle est utile aux populations, elle est utile aux mairies. Et moi, pour moi, en tant que président, c'est ça qui est important. Vous savez, j'ai quitté le Parlement pour présider la métropole.
Oui.
Parce que c'est devenu ma passion. Je l'ai fait parce que j'estime qu'il faut sauver ce concept et qu'il faut le faire vivre. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les équipes, dans le cadre d'une gouvernance partagée, on se met tous autour de la table, quelles que soient nos convictions politiques, et on arrive à faire voter à l'unanimité jusqu'à 150 délibérations au conseil métropolitain où il y a 209 personnes. Qui fait pareil que nous ? Aucun autre conseil fait pareil que nous. Voilà. Alors je crois qu'il faut arrêter de rentrer dans ces polémiques. Ce qu'il faut, c'est voir comment on peut, effectivement, en changeant la loi, renforcer les pouvoirs de la métropole. Regardez, allez à Tokyo, vous verrez les pouvoirs de la métropole de Tokyo. C'est un État dans l'État qui a tous les pouvoirs de l'État, y compris la police. Et c'est une métropole.
Et d'ailleurs, l'objectif numéro un de départ, c'était justement, au niveau mondial, eh bien, d'être encore plus fort, tout simplement.
C'est ça. Et une fois de plus, en France, on est en retard.
Eh oui. Voilà. Allez, une petite dernière question politique. Les LR ont donc remporté les élections départementales et régionales il y a quelques jours. Bon, il y a beaucoup de candidats qui semblent se presser, finalement, du côté des LR, des gens de qualité, bien évidemment. Ça vous inquiète ? Ça vous fait peur ? Ça vous inquiète ? Quel est votre sentiment ?
Écoutez, la profusion de qualité, de talent, ne peut pas nuire.
Oui.
Ça, c'est certain.
Là-dessus, on est d'accord.
Et je suis heureux que les LR, je suis membre du bureau politique des Républicains, je suis heureux que ma famille politique ait remporté de grands succès pendant ces élections, que ce soit la région ici avec Valérie Pécresse, et je la félicite encore de cette élection, ou dans le cadre des élections départementales. La victoire dans le département du Val-de-Marne est quand même significative pour les Républicains.
Ben oui, les communistes étaient au pouvoir depuis très longtemps.
Donc maintenant, les Républicains qui ont repris de la couleur au niveau national et vont avoir à faire un choix. Nous avons un bureau politique là, la semaine prochaine, qui va discuter de ce problème. Nous allons décider d'une stratégie autour de Christian Jacob et nous allons nous tenir à cette stratégie pour qu'à la rentrée, au mois d'octobre, novembre ou plus tard, il n'y ait qu'un seul candidat que les Républicains soutiendront.
Merci beaucoup Patrick Ollier d'être venu nous voir sur Radio Territoria et Radio Immo. Et on a compris toute l'importance de la métropole avec cet entretien. Merci à vous en tout cas.
Merci Christophe de m'avoir invité.
Avec plaisir. Vous restez avec nous bien sûr parce que d'autres rencontres sont à venir sur Radio Immo et Radio Territoria en direct du Salon de la MIF, l'Association des maires d'Île-de-France. Merci.
L'Express du Grand Paris, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.